Bonjour et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer, comité 13. Aujourd'hui, nous recevons Alice Détolénaer, mannequin, égérie de grandes marques de lingerie et auteure du livre « Guérie par ton amour » dans lequel elle évoque son cancer du sein à travers le prisme de son couple avec Camille Lacour. En ce mois d'octobre rose, son témoignage est encore plus essentiel. Alice, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes très heureux de vous avoir à notre micro. Je l'ai dit très brièvement en introduction, mais je vais vous laisser vous présenter et nous dire deux mots de votre parcours.
Alors, pour commencer, j'ai 36 ans. Je vis à Marseille depuis peu de temps. Je suis originaire d'un petit village en Bourgogne. J'ai grandi dans un milieu très rural et assez modeste. Et puis, j'avais des rêves de devenir grande parce que j'ai des grandes sœurs et des grandes cousines. Et c'est comme ça que je suis devenue mannequin quand j'en ai eu l'opportunité. J'ai été d'ailleurs Miss Bourgogne en 2010.
C'est vrai, je ne l'ai pas précisé.
Oui, ça. C'est pas grave.
Non, mais c'est important, Miss Bourgogne 2010.
En même temps, je ne le dis pas forcément, mais bon, je trouve que je n'ai pas à le cacher non plus. Je suis devenue mannequin, j'ai travaillé à Hong Kong et aux États-Unis en particulier. Et puis à 5 ans, je suis rentrée en France parce que j'ai perdu mon papa d'un cancer qui était en fait à un stade très avancé. Donc il est parti assez rapidement. C'est pour ça que je suis restée vivre en France, pour être auprès de ma mère et aussi parce que dans le même temps, j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui. Mon chéri, comme vous l'avez présenté, Camille Lacour. Mmh. Et donc, un an après être restée en France et avoir perdu mon papa, c'est moi qui découvrais avoir un cancer du sein.
Voilà, donc ça, évidemment, on va y venir. Je le disais, votre témoignage est essentiel au mois d'octobre, comme tous les autres mois de l'année, parce qu'on focalise beaucoup sur Octobre Rose. Mais ce dont on va parler est fondamental tout au long de l'année. Il est très urgent de sensibiliser le plus largement possible sur ce sujet et inviter les femmes à une grande vigilance concernant le cancer du sein, qui, je le rappelle, est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme, mais qui se guérit dans 9 cas sur 10 s'il est détecté tôt. Donc justement, on a envie de savoir comment ça s'est passé pour vous. Comment avez-vous découvert ce cancer ?
Alors, je l'ai découvert moi-même, en fait, en touchant... Parce que donc la sœur de ma maman, dont elle était très proche, était décédée d'un cancer du sein quelques années auparavant. C'était le seul cancer du sein et cancer tout court, à part celui de mon papa, dans notre famille. Donc je me sentais un petit peu à risque, mais pas tant que ça. Et donc c'est pour ça que je faisais un petit peu attention à ma poitrine. Et puis un jour, j'ai découvert une petite grosseur qui était assez profonde. Donc j'ai été consultée sans être trop inquiète. Parce qu'en plus, j'avais d'autres examens gynécologiques à faire. Donc, je me suis dit que bon, comme ça, je ferais toucher. En plus, ça a attendu plusieurs mois puisque c'était l'été. Donc, je me suis dit, bon, on attendra la rentrée. Et finalement, le docteur m'a fait cette palpation. Il était très bien, ce docteur. Par contre, quand je suis arrivée dans son cabinet, c'était la première fois que je le rencontrais. Il ne m'a pas proposé spontanément une palpation. Il ne m'a pas demandé mes antécédents familiaux. Je le dis parce que je trouve que c'est important d'être proactif de sa santé et de ne pas hésiter à demander à son médecin de faire la palpation. En fait, c'est même les recommandations qui sont faites à partir de 25 ans, mais même avant si on le souhaite.
Parce que juste là, vous m'avez parlé de votre papa, la sœur de votre maman, et à aucun moment on vous a dit que vous étiez peut-être plus à risque que d'autres. Personne ne vous en a jamais parlé.
C'est à ce moment-là que je le réalise, puisque quand il sent cette... Alors, il ne la sent pas, en plus, parce que donc il n'arrive pas à la trouver. Donc, c'est moi qui prends son doigt et qui lui fait toucher. C'est pour ça aussi que je pense que le corps d'une femme, il n'y a que elle qui peut vraiment le connaître parfaitement. Donc, c'est important de faire la palpation.
Et se fier à son instinct, si on pense que quelque chose ne va pas, on n'hésite pas.
Exactement. Voilà, vous avez... tout résumé. Et donc, il me demande, est-ce que vous avez des antécédents familiaux ? Je lui explique, oui, la sœur de ma maman. Il me demande à quel âge elle a eu un cancer, un diagnostic. Donc, elle, c'était 42 ans, ce qui était relativement tôt, mais moi, j'en avais pas conscience, finalement. Et donc, il me dit, bon, on va aller passer une mammographie. Alors, je vais passer une mammographie. On me repose encore les mêmes questions. Antécédents, quel âge, le diagnostic ? Bon, ok. Et moi, en fait, j'avais un peu aussi une vague idée de ce que représentait un risque. C'est-à-dire que je me disais, oui, on est à peu près à risque. Je comprenais pas qu'on pouvait avoir une mutation génétique qui prédisposait à un risque qui était quand même assez élevé. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur aux gens, parce que ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'essayer de comprendre en fait, comment peut fonctionner une prédisposition. Parce que quand on n'en a pas, et la transmission, elle n'est pas automatique en plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une maman, une tante qui est intergénétique que nous, on va forcément l'avoir. Mais quand on l'a, bon, c'est quand même important de le savoir, parce qu'on on doit avoir un suivi adapté. Et donc j'ai passé cette mammographie et puis en fait j'ai compris qu'il devait y avoir quelque chose d'un peu particulier quand on n'a pas arrêté de me la faire refaire sous tous les angles. La dame m'a dit bon bah vous allez aller passer une biopsie, c'est plus prudent. Et le monsieur qui m'a reçu à la biopsie m'a dit oh moi je vous aurais pas fait passer une biopsie parce que vous correspondez pas du tout aux critères de la jeune femme qui va avoir un cancer, 99% de risque, enfin de chance que vous n'ayez rien. Ah bah ça m'a vachement rassurée. C'est ce qui a fait que j'étais pas du tout préparée à ce qu'on m'a annoncé 3 semaines après. Ouais, mais bon après c'est pas grave. Ce docteur, je pense qu'il a voulu me réconforter et en vrai il avait raison parce que j'avais 99% de chance par rapport aux statistiques de ne rien avoir. Mais
vous aviez quel âge à l'époque?
32. 32 ouais, ans donc effectivement. Et voilà et finalement.
Donc rassurée, 3 semaines après le diagnostic tombe. C'est un cancer agressif.
Alors, j'avais 2 types de cellules. Celles qui avaient été détectées, c'était carcinome intracanalaire. Alors, ça va, franchement, c'est le cancer le plus gentil. Donc, c'est pour ça que... Alors, le diagnostic a été évolutif pendant 3 mois, c'est-à-dire que je passais des examens. On va me retirer le sein, on ne va pas me retirer le sein. Je vais faire juste une tumorectomie à l'IRM. En fait, on ne comprenait pas très bien. Et puis, finalement, ça s'est soldé... Déjà, j'ai été me faire opérer à l'Institut Curie par une chirurgienne incroyable. Enfin, je pense que ça a été la rencontre la plus importante pour moi. Elle m'a rassurée de plein de points de vue possibles. Et en fait, au retrait de toute la glande, on a compris qu'il y avait un cancer infiltrant, mais qui était plus en profondeur et qui était à un stade vraiment très précoce. C'est pour ça qu'il était difficilement identifiable à la biopsie, parce que suivant l'endroit où on allait piquer, on ne le prélevait pas. Donc un dépistage précoce, oh, c'est incroyable parce que ça sauve des vies. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire de la prévention. Hein. C'est parce que finalement, j'ai eu certes une mastectomie et c'est pas drôle de passer par là, mais par contre, ça m'a épargné les traitements lourds parce que c'était localisé, parce que c'était pris à temps.
Alors, donc entre le moment où vous apprenez la nouvelle et vous dites vous rencontrez cette chirurgienne formidable de l'Institut Curie, on a du mal à imaginer combien de temps ça prend, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et puis, on a un peu envie de savoir, vous, au moment de l'annonce, comment vous réagissez, comment réagissent vos proches?
Alors, pour répondre à la première partie de question, il s'écoule 3 mois entre le temps où j'apprends à avoir un cancer et le temps où je me fais opérer. C'est 3 mois. Et après, il me faut encore 3 semaines pour recevoir les résultats définitifs. Donc c'est vrai que c'est très long parce qu'on s'imagine que dans les films, on nous pose un diagnostic et puis tel va être le protocole et une date de fin, alors qu'en fait dans la ville, un diagnostic il est toujours évolutif. Et puis le moment où je l'apprends, en plus, c'est assez déroutant. Je suis au travail, en train de faire des essayages pour une marque de vêtements et je reçois un email sur mon téléphone de la secrétaire du gynécologue. Qui me dit « Vos résultats sont arrivés, il faudrait que vous veniez nous voir. » Et je me dis « Pourquoi elle m'envoie ça ? Enfin, elle devrait me dire que tout va bien. » Et puis, je lui demande « Est-ce que les résultats sont bons ? Je peux venir demain ?» Je me dis « Je vais y aller assez vite, comme ça je vais m'ôter ce doute. » Et elle me dit « Non, les résultats ne sont pas bons, il faudrait que vous veniez assez rapidement. » Et comme je suis au travail et que j'ai pas du tout envie de m'effondrer, et puis surtout, moi qui fais un travail d'image, j'ai peur parce que je me dis, mais attendez, si je commence à dire à tout le monde que... Enfin, tout de suite, ça me traverse l'esprit. Je peux pas dire que j'ai un cancer du sein, sinon je vais perdre mon travail. Donc je me dis, dans un premier temps, tant que je ne sais pas ce qu'il en est, je préfère le cacher. Donc je dis à la styliste qu'il faut que je parte plus tôt. Parce que, en fait, clairement, je ne peux pas du tout prendre sur moi. Et quand je sors, j'appelle le docteur et je lui demande de m'expliquer par téléphone. Il me dit « Je ne peux pas vous le dire par téléphone, mais ne vous inquiétez pas, ça se soigne. » Bon, clairement, ça ne me rassure pas du tout.
J'imagine.
Et là, de là, j'appelle Camille. Ça faisait 2 jours qu'on venait d'aménager ensemble. Ça faisait 1 an qu'on était en relation. Et forcément, moi, j'étais absolument folle d'amour pour lui. On était en train de tout construire. Et en plus, on était en train déjà d'envisager de faire notre bébé en fin d'année. Alors, à ce moment-là, on est au mois d'octobre. Donc voilà, je me dis, là, il y a tout qui s'effondre. Là. En fait, là, je vais perdre certainement mon travail, l'argent, la santé, ma féminité et puis certainement mon mec parce que... Je me dis, ça fait 1 an qu'on est ensemble, pourquoi il aura envie de rester avec moi? Enfin, bon, oui, c'est pas du tout ce qui s'est passé, heureusement.
Bien sûr, mais c'est ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là.
Oui, et puis en plus, j'ai envie de lui donner cette opportunité de partir s'il en a envie, parce que lui, il avait sa petite fille qui avait 6 ans. Il n'a peut-être pas envie de m'accompagner dans ce combat, quoi. Et donc, quand je rentre à la maison, je le retrouve. Alors, je l'appelle tout d'abord et... Il me dit « Comment ça va, mon amour? T'as fini le travail ?» Je dis « C'est affreux ce que je vais lui dire. » Là, je rigole parce qu'en fait, sinon, j'en pleurerais encore, de toute façon, mais je ne vais pas en pleurer à chaque fois que j'y repense. Et donc, je lui dis « J'ai eu le médecin, les résultats sont mauvais. J'ai rendez-vous demain à 9h. » Je pense que je lui mets la claque de sa vie. Et surtout parce que moi, la seule histoire du cancer que je connais, c'est celle de ma tante. Et en fait, je me projette et je me dis, ça va être comme elle. En fait, la première fois, on lui a dit, non, mais ça va, vous inquiétez pas, ça soigne. Et puis, en fait, elle s'est battue 10 ans et puis elle est partie et c'est d'une façon très, très injuste, quoi. Donc, je me dis, je vais infliger ça à ma famille. Enfin, voilà, forcément, j'imagine le pire, quoi. Et le lendemain, on a rendez-vous ensemble. Donc, j'avais proposé à ma meilleure amie de venir parce que j'étais pas sûre que Camille puisse... me soutenir, en fait. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. C'est vrai qu'on a encore plein de choses à découvrir l'un de l'autre. On peut pas dire qu'on se connaît vraiment. Et puis, parfois, on peut être ensemble depuis 10 ans et vivre ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se découvre, pour de vrai. Donc, mais lui, non, il me dit, moi, hors de question, je veux venir avec toi. Il me dit, après, c'est toi, si tu préfères y aller avec ton ami. Mais, donc, ça m'a quand même rassurée qu'il me dit ça. Et bien évidemment, j'y suis allée avec lui parce que ça a trait à la féminité. Donc je veux que quand même ils se rendent compte que je vais certainement plus être la même. Alors le discours du docteur se veut quand même rassurant, mais bon, à partir du moment où il pose le mot cancer, de toute façon c'est ultra flippant.
Bien sûr.
Parce que effectivement, il n'y a pas un cancer du sein, il y en a plein. Et donc il me dit, mais vous en faites pas, vous aurez certainement pas de traitement, de gros traitement, mais après il faut faire encore des analyses pour s'en assurer. Mais bon, en fait, moi de toute façon, de ce rendez-vous, je me souviens de rien. Et je m'en souviendrai jamais, puisqu'il m'a répété 4 fois la même chose, mais en fait, j'ai juste retenu, c'est un cancer, c'est tout.
Et après, état de sidération totale.
Exactement.
Ouais.
Je pense que c'est ce qui arrive
bien sûr
dans beaucoup des cas.
Donc c'est Camille qui a,
oui, c'est Camille
qui a pris des notes.
Exactement, qui posait les questions qui me l'a répété à la maison. Et je disais, ah bon, mais il a dit ça le docteur? Il me dit, mais oui, tu t'en souviens pas? Ben non, je m'en souviens pas. Et c'est pour ça qu'en plus, être accompagnée le jour d'un diagnostic, je trouve que c'est ultra, ultra important. Enfin, même pas que du point de vue d'être soutenue, mais sur le point de vue de comprendre ce qui se passe, quoi. De retenir les informations. Et voilà, et en fait, il m'a accompagnée à toutes les étapes de mon parcours. Alors après, avec du recul, moi, je sais que j'ai eu que la bonne version du cancer, clairement. C'est-à-dire que...
C'est quoi la bonne version d'un cancer?
La bonne version, c'est que j'ai été prise à temps, que j'ai eu certes une mastectomie plus une deuxième dans un second temps, puisque en fait on s'est rendu compte que j'avais un terrain génétique, que j'avais un risque de réapparition sur l'autre sein de la maladie, mais j'ai eu une reconstruction immédiate, donc c'est-à-dire dans le même temps que la mastectomie, et que finalement j'ai été épargnée des traitements lourds. Donc, j'ai même pas eu ni d'hormonothérapie, ni de chimiothérapie. Dans ces cas-là, je trouve que c'est aussi facile pour les proches également. Donc, tout le monde est mieux épargné. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, au début, qu'on me prenne pour une représentante, ça me posait problème parce que je me disais, oui, mais moi, j'ai pas le même parcours que beaucoup d'autres femmes qui sont passées par l'enfer. Même si rétrospectivement, ça a été très dur. Mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire aux femmes d'aller se faire dépister pour qu'elles aient la même chance que moi.
Et vous êtes tout à fait légitime pour le faire. Et il suffit de vous suivre, c'est vrai, sur vos réseaux sociaux. pour comprendre qu'en fait, avec cette visibilité-là, il faut se servir de ces outils-là pour faire passer ces messages. Et vous le faites le plus naturellement du monde. Et venant, il n'y a qu'une femme qui peut comprendre une femme et ce qu'elle traverse. Et quand on vous voit enceinte et que vous expliquez qu'il y a un sein plus gros que l'autre et pourquoi et pour quelle raison, d'ailleurs, vous pourrez nous le dire à ce micro. Mais tout ça, c'est la vraie vie. C'est le quotidien de plein de femmes, justement. Et donc, c'est important de pouvoir s'identifier, d'avoir un petit effet miroir. Donc, d'ailleurs, vous pouvez le dire pourquoi enceinte, vous disiez qu'il y avait un sein, bah, tout simplement qui gonflait beaucoup plus que l'autre, puisque l'autre avait déjà été enlevé.
Voilà, c'est ça.
Suite à la première mastectomie.
Exactement, ouais. Du coup, j'avais un bonnet B et un bonnet, alors je ne sais même pas combien, F peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était assez choquant. Et en fait, ça me tenait à cœur de partager tout ça parce que j'ai vu que ça faisait du bien aux autres femmes. Puis finalement, ça me faisait aussi du bien à moi.
Et oui, parce que comme vous le disiez, c'est un métier d'image, mais c'est aussi montrer votre corps tel qu'il est. Et le fait que vous étiez une femme, encore, qui a mille et une façons d'être une femme, de se sentir féminine, de se sentir belle. Pour en revenir à l'accompagnement, alors je sais que dans le milieu médical, vous êtes très reconnaissante envers les équipes de l'Institut Curie, vos proches aussi évidemment. Vous parliez de Camille, votre amoureux. Alors peut-être que celles et ceux qui nous écoutent ne l'ont pas identifié, donc on rappelle que c'est un sportif de haut niveau, un nageur, quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe, donc un mental d'acier, ça va de soi. Est-ce qu'il vous a transmis cette force-là aussi ?
Je pense qu'on a été forts l'un pour l'autre. Que lui, il a compris très tôt qu'il ne serait pas acteur de la situation, là où lui, il a toujours l'habitude de l'être. Et que ce serait un combat qu'il allait mener, mais sur le banc de touche. Et je trouve qu'il a géré les choses de façon très intelligente parce qu'il s'est dit, voilà, je vais être là pour l'écouter. Lui, c'est un taiseux, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui parle, qui verbalise. Il a appris à le faire avec moi. Je vais pas me lancer les fleurs, mais c'est vrai que du coup, on a fait ce travail-là ensemble. Donc il m'écoutait, il a compris qu'il fallait pas dramatiser, mais en même temps, il fallait pas minimiser la situation. Lui-même, il trouvait un exutoire à pouvoir parler auprès d'autres personnes pour que lui, il se sente bien aussi, mais... Enfin, pour moi, sa présence, elle a été... c'est indispensable. Je pense que c'est même pas assez fort, en fait. Parce que, bien sûr, on a besoin de son homme quand on est dans la douleur, quand on n'est pas bien. Mais en fait, moi, c'est toute ma vie, ma personnalité que j'ai changée.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je pouvais plus travailler de la même façon. Donc, j'ai complètement changé. Et puis, en plus, moi, mon physique... C'est la chose qui me rassurait le plus au monde. Parce que forcément, légitimement, c'était mon statut social, c'était mon travail, c'était ma façon de séduire un homme, de séduire les gens, de toute façon, en général. Et en fait, j'avais pas assez conscience que... Mais le reste aussi était très important, que j'avais pas que ça. Mais sauf que moi, c'est tout qui s'est effondré, en fait. Et je me suis autorisée à être vulnérable parce que lui, en fait, il a pas abusé de cette situation. Et en fait, vraiment, ça nous a permis de révéler notre couple. De se dire, sans orgueil, sans vouloir prendre le pas sur l'autre, en fait, on est fort, on est ultra fort, quoi. Grâce à lui, j'ai pu garder la tête haute. Et grâce à lui, surtout... J'ai pu en parler parce que c'est sa notoriété à lui qu'il a mise à disposition pour faire passer le message. Si j'avais pas été la femme de Camille, les médias se seraient pas intéressés. Mais je le comprends. Hein, et j'ai pas du tout de problème de légitimité vis-à-vis de ça. Hein, je suis la première à dire que j'ai utilisé sa notoriété pour parler de ce qui me paraissait important. Et là aussi, je l'ai trouvé vraiment fort parce que un jour, je lui ai dit. Est-ce que ça te dérange ? Parce que là, je sens que maintenant, ça y est, je vais vraiment aller dans le sujet et du coup, je vais peut-être t'en parler un peu tous les jours. Est-ce que c'est anxiogène pour toi ? Est-ce que tu as envie qu'on tourne la page ? Et il m'a dit, oh non, non. Il m'a dit vraiment, si toi, ça te rend heureuse et que tu supportes et que c'est pas anxiogène pour toi, moi, je te suis. Pour ça, vraiment, j'ai beaucoup de chance.
Tout ça, vous le racontez dans un livre, Guéri par ton amour. À quel moment vous avez eu ce désir d'écrire ? Est-ce que c'était déjà le cas avant ? Est-ce que vous écriviez ? Comment ça s'est passé ? Surtout, comment le processus s'est mis en route ?
Alors, j'ai toujours un peu écrit, effectivement. Pendant le confinement, j'ai commencé justement d'écrire, mais sans l'idée de faire un livre. Au début, j'ai commencé par un blog. Et je me suis rendu compte que d'écrire, ça me permettait finalement de me replonger dans les souvenirs que j'avais mis de côté pour me préserver à une époque. C'est-à-dire que, par exemple, les rendez-vous chez le médecin dont je ne me souvenais plus, bah là, j'ai dû me poser, me dire, allez, essaye de te souvenir de nouveau. Et c'était un peu comme m'y replonger, mais avec sécurité, puisque maintenant, c'était passé. Mais c'est vrai que ça fait remonter des choses. Ça m'a remis une période un peu difficile psychologiquement, de me dire, voilà, j'ai le droit aussi de me dire que ça a été dur, j'ai le droit d'avoir eu peur, d'avoir encore peur. Mais bon, après, je pense que tout ça, ça fait partie du chemin, de toute façon, de vivre toutes ces étapes. À la sortie du confinement, j'avais pas mal écrit, et puis il y a les éditions Le Duc qui m'ont contactée pour me proposer d'écrire à ce sujet. Et ils étaient vraiment gentils, c'était une équipe composée que de femmes. Bon, après, c'est pas pour ça que c'était une bonne équipe, mais vraiment que des gens formidables. Et en fait, ils me laissaient libre d'écrire ce que j'avais envie. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ça a peut-être été un peu commercial, je sais pas, enfin, qu'on fasse un peu dans le mélodrame, alors que moi, j'avais envie de faire quelque chose de plutôt positif. Et de parler aussi, pas que du cancer du sein, mais aussi de la femme que j'étais devenue. Et en fait, ils ont été super. Donc voilà, on est parti sur cette idée. Et le titre me tenait à cœur de m'adresser à Camille directement, guérie par ton amour. Parce qu'en fait, lui m'a aidée finalement à guérir de toutes les façons dont on peut guérir, et notamment vis-à-vis de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'apparence.
Que vous ne mettez peut-être plus au premier plan alors que ça a été votre vie pendant
Exactement.
Des années.
Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça.
Ouais. Donc guéri par ton amour et par votre courage à vous aussi, votre force, votre détermination. Ne vous oubliez pas, au passage.
C'est gentil.
Et il y a eu un petit bonheur assez rapidement, parce que vous parliez tout à l'heure, suite à la mastectomie, on parlait de votre corps de femme enceinte. Donc ce petit bébé auquel vous pensiez déjà assez rapidement au début de votre relation est arrivé.
Exactement.
Marius.
Donc il est né en juin 2021. En fait, quand j'ai terminé mon opération, ma mastectomie, ma première question, ça a été de demander à ma chirurgienne quand est-ce que je pourrais envisager de faire un bébé. Elle m'a dit, mais quand vous voulez, puisque j'avais pas de traitement d'hormonothérapie, donc en fait, j'étais pas trop dans le risque de faire une grossesse. Donc, mais j'ai quand même attendu finalement, parce que le temps de digérer certaines choses, et puis aussi le temps de réfléchir au fait que j'étais peut-être porteuse d'une mutation génétique. Et tout ça, forcément, ça bouscule et ça interroge. Que voilà, j'ai mis un peu plus de temps que prévu à faire ce bébé. Mais voilà, maintenant, il a 2 ans. Il va très bien et c'est notre bonheur, hein, puisqu'on est maintenant, on est 4 à la maison, puisque Camille a une fille d'une précédente union qu'il a eue avec Valérie Beg, et on est en garde alternée. Donc on est 4, nous.
Voilà. Une belle famille recomposée.
C'est ça.
On parlait tout à l'heure des équipes de l'Institut Curie. La chirurgienne formidable qui vous a accompagnée, j'imagine que ce n'était pas la seule. Comment justement vous avez vécu ? Est-ce que vous avez été bien entourée ? Est-ce que vous estimez avec le recul que tout a été bien fait, que vous êtes sentie rassurée, épaulée par le monde médical ?
Bah, de toute façon, d'une façon générale, moi, j'ai rencontré que des gens bien. Après, il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. Et puis, de toute façon, la personne qui nous annonce avoir un cancer, c'est souvent la personne qui porte la mauvaise parole, donc on n'a pas toujours un bon feeling avec elle. Après, au sein de l'Institut Curie, ouais, j'ai été estomaquée par cette organisation, cette humanité que les gens ont. Je trouve qu'ils font un travail formidable. Je suis très triste aussi que ce soit un peu compliqué en ce moment pour les hôpitaux en France, parce que on leur donne pas assez de moyens, et pourtant eux enfin, ils se donnent à fond, quoi, pour les patientes.
On revient sur la mastectomie. La première, elle est obligatoire, elle vous est pas recommandée, elle est juste obligatoire. La deuxième, vous la faites par prévention, et vous en parlez sur les réseaux sociaux très librement, parce qu'on sent que vous avez vraiment envie de rassurer.
Alors, vous disiez que ça me tient à cœur de rassurer, ça me tient aussi à cœur d'informer. Parce que c'est pas un sujet qui est forcément facile à comprendre pour le grand public, comment fonctionne la prédisposition génétique. Et oui, ça me tient à cœur parce que en France, on est assez peu de femmes finalement à aller se faire opérer de façon préventive. Pourquoi ? Parce qu'il y a des idées reçues, il y a des peurs légitimes. Mais les idées reçues, c'est par exemple que voilà, on n'aura plus de féminité après ça, non, mais ça va, moi je ne développerai pas le cancer. Les femmes qui sont porteuses de mutations génétiques comme BRCA1 ou 2, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais elles ont des risques à hauteur de 80%, quoi.
Ah oui.
Donc c'est quand même énorme. Mmh. Après, comme je le disais, une transmission, elle n'est pas obligatoire de parent à enfant. Ce n'est pas parce qu'il y a un gène muté dans la famille que vous devez absolument l'avoir. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas plus de risque que n'importe qui d'autre d'avoir un cancer du sein. Mais c'est quand même bien de s'en assurer. Et il y a des personnes qui n'identifient pas ça dans leur famille, qui ne se posent pas la question. Et donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'informer les personnes, de leur dire si vous voyez, si vous comprenez des schémas de terrain génétique dans votre famille, n'hésitez pas en fait à aller, par exemple, donc à l'Institut Curie, il existe sur le site internet au département génétique un questionnaire que vous pouvez remplir, qui est un peu long et chiant à remplir, clairement. Mais c'est pas grave, il faut le faire. C'est important. Et on vous répondra. Si on estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on n'ouvrira pas de dossier de recherche. Et dans ces cas-là, bah, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Donc c'est une bonne nouvelle. Et si on estime qu'il faut ouvrir un dossier de recherche, et bah, dans ces cas-là, vous saurez. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Et puis, bah, oui, aussi sur l'aspect... une fois qu'on est informé d'avoir une prédisposition, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Parce que du coup, soit on vit avec un suivi qui peut être anxiogène, c'est des IRM tous les 3, 6 mois, bon, en fonction des femmes. Il y en a qui font ce choix-là, et franchement, je trouve que le courage, il est clairement là. Et puis, il y en a qui décident d'aller se faire opérer, moins de 10%, ce qui est très très peu.
Il y a quelques années, Angelina Jolie.
Voilà, exactement. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce qu'elle a vraiment rendu service à l'humanité. Mais bon, ce qui fait qu'il y en a presque 50% aux États-Unis de femmes qui vont se faire opérer. Nous, on n'est pas très... on n'est pas encore très au point en France. Mais en plus, tout est pris en charge en France, hein, par la sécurité sociale.
En plus. Mais vous allez être notre Angelina Jolie.
C'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Et donc, ouais, c'était important de montrer que... Mais en fait, ça peut très, très bien se passer. Après, il y a des risques et il faut pas les cacher, il faut pas les sous-estimer. En tous les cas, moi, je pense que, même si comme ça, c'est plus dur à dire qu'à faire, mais dans tous les cas, il vaut mieux même une opération qui se passe pas comme prévu ou pas très bien, plutôt que de tomber malade.
Mmh. Voilà. Donc, vous avez sauté le pas, vous avez osé. Je vous ai pas demandé comment votre maman a vécu ce moment, elle qui avait sans doute, comme vous, en tête l'histoire de sa sœur.
Ma maman, je lui en ai pas immédiatement parlé, parce que comme je vous l'expliquais, le diagnostic, comme il est évolutif, je voulais attendre de savoir un petit peu plus. Alors, je m'étais dit, je vais attendre de connaître les résultats de l'IRM, de connaître... Puis parce qu'en fait, j'étais dans l'impossibilité de le faire. C'était, pour moi, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que le décès de ma tante, ça a traumatisé ma famille. On n'a plus parlé d'elle pendant 10 ans. Mais c'est choquant, hein. Enfin, qu'on avait peut-être peur un peu de la troubler dans son sommeil, j'en sais rien, mais... C'était trop dur pour nous et donc quand mon père est parti, bon bah ça a été voilà encore trop traumatisant et donc là j'étais vraiment dans l'incapacité d'en parler à ma mère. Et après je me suis rendu compte que je le faisais pas non plus parce que j'essayais de me préserver moi. Et une fois que je l'ai compris, je me suis dit bon bah allez, maintenant tu en parles, mais instaure tes règles. Je voulais pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Je voulais que de voir des gens forts autour de moi, qu'on puisse en parler. Mais sans dramatiser, c'était important. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ma famille, ils ont compris et ça s'est hyper bien passé. Et c'est ce qui nous a permis en plus de reparler de ma tante avec soulagement, amour, légèreté.
Ouais. En préparant cet entretien, j'ai découvert que vous aviez suivi un DU démocratie en santé à l'Université des Patients. De quoi s'agit-il ?
Alors
tout ça, un c'est... programme.
Oui, c'est ça. Je suis trop contente de parler de l'Université des Patients parce que je trouve que c'est un endroit formidable. Alors, en ce qui me concerne, c'était à la Sorbonne, hébergé par la Faculté de médecine. Aujourd'hui, il en existe plusieurs en France. Bon, celle-ci, c'est la toute première qui a été créée il y a plus de 20 ans. Et en fait, c'est un endroit où il y a plusieurs diplômes. Et il y a un diplôme qui s'appelle démocratie en santé. En gros, je vais le résumer en disant que ça permet de comprendre vraiment le système de santé actuel et de pouvoir s'outiller pour militer. Pourquoi j'ai voulu aller là-bas ? Parce que justement, j'avais envie de militer pour donner un meilleur accès au dépistage génétique. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez nouveau en France, qui est mal compris. Et aussi parce que il existe une loi qui est la loi bioéthique et qui fait en sorte qu'on ne peut pas passer des tests génétiques comme on le voudrait. Parce que c'est protégé, donc c'est une loi qui est très bien. Hein. Mais par contre, on n'est pas très proactif. Ça reste assez délicat, ça se prend avec des pincettes. Et je trouve qu'il faut essayer de un petit peu plus démocratiser ça, en tout cas pour le cancer du sein, puisqu'on a des solutions aujourd'hui qui existent, c'est-à-dire faire des opérations préventives. Mais il faut que la loi, elle évolue au rythme de la recherche, puisqu'aujourd'hui, la recherche, elle n'est pas seulement capable d'identifier des prédispositions génétiques. Il y a quelques jours, là, à l'Institut Curie, des chercheurs ont mis en évidence qu'il est possible, sur certains gènes, d'inverser la mutation génétique, c'est-à-dire le remettre à la normale pour qu'en fait, il n'y ait pas de maladie qui se développe.
Incroyable.
C'est incroyable. Et en plus, c'est l'avenir. Et puis en plus, c'est logique. Parce que ça paraît plus logique d'avoir anticipé une maladie que d'avoir à la soigner. Et donc, il faut que ça avance. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de financer depuis 7 ans une étude sur presque 100 000 femmes pour déterminer s'il faut identifier des groupes entiers de femmes dans le but de justement identifier les terrains génétiques. Il faut bousculer la loi, il faut aller militer pour le faire, quoi. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de le faire.
Mais ça s'entend, ça se voit, mais ça veut dire quoi? Que vous avez voulu vous professionnaliser? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être ça, votre quotidien, votre travail?
Aujourd'hui, je fais des interventions en entreprise, justement pour sensibiliser au cancer du sein. Et du coup, je distille aussi ce discours-là, de dire, parce que c'est un droit français, d'aller justement demander une identification génétique, si elle est acceptée ou non. Mais les gens ne le savent pas. Enfin, de toute façon, les chiffres, ils sont là. Je veux dire, c'est 5%, hein, normalement, le chiffre, mais je préfère dire moins de 10% parce que c'est toujours des approximations. Il y a moins de 10% des femmes qui ont une identification de terrain génétique qui vont se faire opérer. Enfin, c'est absurde. Quand on en parle au grand public, les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est important d'informer, déjà, pour que les gens soient mieux à même de choisir ce qu'ils ont envie de faire.
Bon, on vous sent très active, très impliquée. On sent que vous avez envie de partager votre expérience, de rassurer aussi, de faire bouger les lignes. Vous prenez la parole sur Instagram souvent, on le disait. Et depuis peu, vient un podcast également, qui s'appelle « Savoir pour choisir ».
Alors, exactement. Alors, « Savoir pour choisir », c'est un média participatif, pour être exact, qui est orienté sur le dépistage génétique, la prévention génétique, qui essaye de faire, justement, démocratiser ce sujet, le faire comprendre au plus grand nombre, mais sans être anxiogène, comme je vous le disais, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Se concentrer sur l'idée que c'est une solution, ce n'est pas un problème. Et justement, j'invite d'autres femmes à raconter leur histoire. Que le but, c'est vraiment d'essayer de démocratiser ce sujet.
Aujourd'hui, ça donne quoi votre suivi? Vous allez être suivi pendant combien de temps encore? Est-ce que c'est régulier?
Ah, c'est toute la vie.
C'est toute la vie.
C'est pas parce qu'on n'a pas de glande mammaire qu'on n'est pas suivi. Parce qu'en fait, il y a toujours un risque résiduel. On ne peut pas tout retirer. Il en existe encore sous le bras. De toute façon, c'est la zone, quand on fait une palpation, hein, c'est de dessous la clavicule jusqu'au creux de l'aisselle. C'est bien pour ça, parce qu'en fait, il y a de la glande mammaire partout. Après, mon risque, il est, je crois, de 3%. Donc, on est en dessous du seuil national. Mais il est toujours présent, donc il faut continuer de faire des mammographies.
Et surtout s'autopalper, parce que là, en parlant, vous faisiez le geste, et ça, c'est hyper important. Non, mais c'est vrai, parce que vous, c'est comme ça, en plus, que vous l'avez découvert. Avoir les bons gestes, pas oublier, voilà, le dessous des aisselles, le sein, sous l'épaule, et pas hésiter à demander à son gynéco de nous redire comment faire, et surtout qu'il le fasse lui aussi, qu'elle le fasse lui aussi. Mais l'autopalpation sous la douche.
Oui,
voilà.
Exactement.
Tout simplement.
Exactement. En plus, après, l'autopalpation, oui, il y a une technique. Mais en fait, je pense qu'il faut le faire avec logique. Il ne faut pas que ce soit non plus un acte trop médical, clinique, qui soit un peu anxiogène en plus. L'idée, c'est de se dire, voilà, je connais la zone. Et on va chercher en profondeur, moyennement dans le sein et en superficie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être dans la peau, donc ça va rouler peut-être un petit peu sous le doigt, ou il y a des choses qui vont être très profondes. Donc on essaye de faire ces trois pressions-là, Et puis après, en horizontal, vertical, parce que toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y a des choses qu'on va sentir dans un mouvement et pas dans l'autre. Et également, on le fait les bras le long du corps et aussi les bras levés.
Voilà, et au moindre doute, on en parle à un professionnel de santé et on fait confiance à son instinct.
Exactement.
Parce qu'on se connaît mieux que personne.
C'est bien de le dire.
Merci beaucoup, Alice.
Merci.
Je rappelle donc votre livre « Guéri par ton amour » aux éditions Le Duc.
C'est ça.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On vous souhaite plein de bonheur avec votre merveilleux amoureux et Marius maintenant. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que pour plus d'informations, eh bien, il y a la Maison Bien-être où on enregistrait aujourd'hui 04 91 41 00 20. www.licancer13.net, voilà, pour avoir plein d'informations. N'hésitez pas à pousser cette porte si besoin, que vous soyez malade ou aidant. Pour terminer, je vous conseille vivement de vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires et partagez-le autour de vous. Parlez-en, cela pourra aider au moins une personne, c'est sûr. Merci beaucoup.
Merci, merci à tous.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.